Territoire en mouvement, l'émission qui questionne les mobilités d'aujourd'hui et celles qui dessinent les territoires de demain. Présentée par Anne-Solange Muis sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur Radio Territoria et pour cette nouvelle émission de Territoire en mouvement, je vous propose de partir en train dans vos territoires ruraux. Alors que les transports en France correspondent à 38% de nos émissions de gaz à effet de serre, rappelons que le train est le moyen de transport en commun qui génère le moins d'émissions de CO2 par unité transportée. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, voyager en train pollue 32 fois moins que de circuler en voiture et 23 fois moins que de voyager par les airs. Ainsi, à l'heure où nous tentons vainement de nous rapprocher des objectifs des accords de Paris, se tourner vers le train pour voyager peut apparaître comme une solution idéale. Or, quand on observe les usages et le développement du transport ferroviaire en dehors des grandes agglomérations, on constate qu'on est plutôt sur une suppression de lignes ou d'un maintien difficile, plutôt que sur un développement des lignes pour l'aménagement du territoire. Pourquoi et qu'est-ce qui est à l'origine de cette suppression progressive des lignes de chemin de fer et notamment des lignes de desserte fine? Quel est le devenir de ce mode de transport face également à nos usages et nos choix de mobilité divers? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre à travers cette émission. Et avec, pour nous, en parler avec nous, pardon, je reçois Patricia Verne-Rochès, qui est maire de Corin-les-Eaux dans le Cantal. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Donc vous êtes l'autrice notamment d'un très beau livre qui s'appelle « Le viaduc de Garabit », chef-d'œuvre de Gustave Eiffel, paru donc aux éditions « La vie du rail ». Avec vous, Antoine Lévesque. Bonjour Antoine Lévesque.
Bonjour.
Donc secrétaire de l'association « Les amis du viaduc du Garabit », je le dis bien, chargé de la sauvegarde de la ligne de l'Aubrac et qui est un membre actif d'un collectif qui s'appelle « Oui au train de nuit ». Olivier Razemont également. Bonjour Olivier.
Bonjour Anne-Solange.
Donc journaliste et auteur d'un certain nombre de livres autour de la thématique des transports et des mobilités territoriales. Et Antoine Beyer, bonjour.
Bonjour à vous.
Professeur de géographie à l'université de Cergy-Pontoise et donc géographe des transports. Donc à tous les quatre, bonjour à nouveau et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette thématique cruciale pour le devenir des territoires. On commence.
Territoire en mouvement sur Radio Territoria.
Donc on vient d'entendre un extrait de la chanson d'Erita Mitsuko, Le Petit Train. Alors pour commencer cette émission, juste rappeler un chiffre et un constat qui est assez parlant. On a un réseau de lignes de chemin de fer qui s'étendait sur 42 000 km dans les années 1930 en France. Hein, et pour aujourd'hui avoisiner plutôt les 30 000 km, donc c'est quand même une perte assez conséquente. Antoine Beyer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un tout petit peu assez rapidement hein, l'histoire et l'évolution de cette pratique du train en France?
Oui, tout à fait. Alors, on peut dire qu'il y a quatre grandes périodes.
une montée en puissance et une construction qui va être poussée par l'État dans les années 1880 et prolongée par les départements qui vont également investir. Alors quand vous avez parlé de 40 000, c'est le réseau national. À ça s'ajoutaient les 20 000 kilomètres de chemin de fer vicinaux qui ont justement régressé très fortement dans les années 30 sous l'impulsion de l'État. C'est aussi une France de 40 millions d'habitants et très largement encore rurale, quasiment à 50%. Donc on a une desserte très fine, à la fois pour desservir les habitants et connecter les industries qui sont également disséminées sur le territoire. Après la Seconde Guerre mondiale, on a un recul qui est très net, et qui se, avec une phase de transfert vers la voiture, qui est assez connue, et une stabilisation. La relance du ferroviaire intervient avec les lignes à grande vitesse, donc au milieu des années 70, le programme qui débouche dans les années 80, et un transfert, enfin un autre mode d'utiliser le train et les territoires. Et un délitement des petites lignes jusqu'au moment où on a une politique de régionalisation, 97, expérimentation qui se généralise en 2002 et une relance. Alors, quand on dit qu'on est passé effectivement de 40 000 à 30 000, ça ne fait que 25% en moins, ce qui est finalement le réseau ferré national est relativement stable et stabilisé depuis les années 70. On a même une légère recrudescence. Donc l'image qu'on a d'un réseau ferré à l'abandon, alors le niveau et l'usage effectivement posent problème et les circulations, mais le réseau lui-même est resté relativement stable. Mm-hmm. Si on compare la France à d'autres pays européens, on a plutôt été conservateur dans cette optique.
Et Olivier Razemont, du coup, est-ce que c'est l'usage de la voiture qui peut expliquer cette diminution, en tout cas cette perte donc, de 25% de ces lignes ? Est-ce que ça a modifié nos usages ?
Oui, mais il s'est passé beaucoup de choses en 100 ans, tout simplement. Ouais. La SNCF, entre-temps, a été créée par nationalisation. Effectivement, vous l'avez dit, la France était un pays rural, elle n'est plus du tout. Les distances se sont allongées, l'usage n'est plus du tout le même. Et bien sûr que la concurrence immédiate, évidente, qui est le mode de transport individuel motorisé, est très puissante, et en fait, elle s'est développée au fur et à mesure. Le système routier aujourd'hui est parfait, pratiquement sans couture. On peut aller facilement, à partir du moment où on conduit une voiture, pratiquement d'un endroit à l'autre de l'Europe, en fait, sans obstacle, sans pratiquement rien payer d'autre que simplement le carburant et l'usage de la voiture. Il y a des péages sur certaines autoroutes à certains endroits, mais pas partout, et pratiquement au cœur de chaque ville, à l'exception de quelques rues piétonnes. Et puis, donc voilà, c'est très... Et qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Tout ça a été accompagné, c'est une histoire de poule et d'œuf, mais par un étalement urbain massif, majeur, qui a fait qu'aujourd'hui les destinations et les départs sont beaucoup plus éloignés du centre de cœur des villes, quelle que soit d'ailleurs leur taille, des petites villes, des villes moyennes, des grandes villes, que ça n'était autrefois. Pour donner simplement quelque chose qui moi me frappe, c'est qu'on a multiplié depuis, effectivement, le TGV a apporté une forme de relance et avec une segmentation spécifique vers la clientèle TGV, pour en reparler, mais avec souvent ces fameuses gares TGV en pleine campagne, qu'on a appelées moment betterave lavande, qui aujourd'hui sont des pôles de mobilité importants où les gens arrivent en voiture et qui sont de plus en plus utilisés en Allemagne. Alors je sais bien que prendre l'exemple de l'Allemagne c'est toujours se fouetter, bon, mais peu importe, c'est vrai qu'en Allemagne il y a pratiquement pas, en fait il y a exactement une seule gare de pleine campagne comme ça, il y en a qu'une entre Francfort et Cologne. La plupart en Allemagne, on considère que prendre le train, c'est aller de ville à ville, y compris des villes de 10 000 habitants. Hein, c'est de ville à ville, que soit le. Alors que finalement, évidemment, en construisant des villes, des gares à la campagne, entre guillemets, forcément, on va de campagne à campagne. Et en France, on a tendance à étaler davantage encore l'ensemble des activités, hein, le pavillonnaire, mais aussi, bien sûr, les activités, les zones d'activité diverses et variées, les zones commerciales.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le train dessert plus facilement une ville éloignée que la proximité des agglomérations.
Quand on regarde les trajets, en nombre de trajets, le train dessert davantage les villes, parce qu'il y a davantage de circulation vers les villes. Mais par contre, on a le concept, évidemment, de gare un peu éloignée. Alors, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est Besançon. Il y a quelques années, il y avait un référendum à Besançon. On avait demandé, peut-être une vingtaine d'années déjà, aux gens, est-ce que vous souhaitez que la gare TGV soit en centre-ville ou est-ce que vous voulez qu'elle soit à la campagne? Les gens avaient voté pour qu'elle soit en centre-ville et on l'a installée à la campagne. Et quand j'ai posé la question à l'architecte de la SNCF à l'époque et à la ministre qui était Nathalie Kosciusko-Morizet au même moment, j'aurais demandé. Ils m'ont dit, ah ben non, mais c'était beaucoup moins cher de la mettre à la campagne. C'était beaucoup plus simple, en fait. En ville, il aurait fallu exproprier des gens, faire appel à des géomètres, des notaires, c'est compliqué. Bon, ben voilà. Et donc, voilà, on est dans la logique de l'étalement urbain qui est de pas se poser la question du territoire, et ben forcément, quand on fait ça, ben les transports, ils rament derrière pour essayer de raccrocher les gens. Mmh. Et le mode de déplacement qui semble plus évident à tout le monde et pour lequel on construit le territoire, c'est les voitures individuelles, généralement, dans laquelle les gens sont seuls.
Et en même temps, on est sur une logique du dernier kilomètre au niveau de la marchandise. Donc justement, sur cet aspect du fret, Antoine Lévesque, est-ce qu'on peut avoir à peu près ces mêmes évolutions, déclins, mouvements au niveau de l'usage du train ?
D'une part, je pense qu'il faut rappeler que le fret a été un motif de création de lignes très important. Ouais. De nombreuses lignes ferroviaires en France sont dues au trafic fret et notamment au plein essor lié à la révolution industrielle. Pour prendre l'exemple justement de la ligne de l'Aubrac qui relie Paris à la Méditerranée via Clermont-Ferrand, la construction de la ligne a été justifiée d'une part par l'exploitation d'un bassin houlier situé près de la mer dans l'Hérault à Grès-Sessac, puis après par le transport de vin jusqu'à la capitale. Et c'est le cas de nombreuses lignes en France. Je pense aussi au centre de la France avec l'exploitation des mines. C'était un enjeu de souveraineté aussi pour la France. Mm-hmm. Donc l'expansion a été forte jusqu'au 20e et c'était aussi un objet de compétition entre les anciennes compagnies ferroviaires. Je pense à la compagnie du Midi, à la compagnie du Paris-Lyon Méditerranée. Et puis après, on a vécu une phase de contraction du fret ferroviaire avec effectivement, comme vous l'avez bien souligné, l'avènement du routier et du trafic par camion qui a effectivement l'avantage de pouvoir faire du point à point, ce que ne permet pas toujours le fret ferroviaire. Mm-hmm. Cela a été couplé avec effectivement la crise du ferroviaire. La SNCF s'est recentrée vers les liaisons les plus rentables aussi parce que les liaisons les moins rentables coûtent cher en péage, donc en droit de passage sur le réseau pour un gain assez faible. Et puis le fret ferroviaire a été ouvert très tôt à la concurrence en 2006. C'est une vague qui a été accompagnée par une contraction budgétaire assez forte. L'État, en l'échange effectivement de cette ouverture à la concurrence, avait promis un plan de développement du fret ferroviaire en 2006, mais un plan qui finalement s'est quand même accompagné de grandes économies. Ça a abouti à une réduction de 10% des effectifs, par exemple, chez Fret SNCF. Et donc le ministre à l'époque, Gilles de Robien, promettait dans un discours en 2005 d'augmenter de 1,2% le fret ferroviaire en 20 ans. Et en réalité, c'est l'inverse qui s'est passé puisque aujourd'hui, la part modale du fret a chuté à moins de 10% en 2018, alors qu'elle était déjà à moins de 20% dans les années 2000.
Oui, et en plus, c'était avant le Covid, donc ouais, c'est intéressant. Patricia Rochès, vous êtes donc maire quand même d'une petite commune qui a su conserver, on va dire, ou qui milite en tout cas pour conserver sa ligne. Historiquement, quelle était la pratique du train sur votre territoire ? Est-ce que vous avez constaté quand même une évolution de cet usage ?
Bien sûr, et donc comme l'a rappelé Antoine, effectivement, cette ligne, elle est née donc d'intérêts économiques forts pour relier la Méditerranée à la capitale. Et donc, dans un premier temps, et comme c'était le seul mode de transport, et que c'était la première fois qu'on avait un mode de transport qui allait très très vite pour l'époque, 50 km/h, et ben en fait, les gens du territoire, donc du Cantal et du Massif central de manière générale, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils sont venus à Paris, surtout au début du XXe siècle. Et donc, il y avait carrément des trains, les trains bonnets à l'époque, qui avaient été créés justement pour emmener les Cantaliens et les gens du Massif central. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui beaucoup encore de brasseries auvergnates à Paris, pour emmener donc les enfants du Cantal, qui, pour les premiers et les aînés dans les fratries, y conservaient la ferme familiale. Et pour tout le reste de la fratrie, ben, souvent, ils partaient donc à Paris. Donc, évidemment, là, on a vu déjà nos campagnes se vider.
Et oui.
Qui avait d'ailleurs déjà été beaucoup vidé par les deux guerres mondiales, mais pour d'autres raisons. Mmh. Voilà. Et ensuite, on a vu arriver, dans un second temps, la 75. avec donc le président Valéry Giscard d'Estaing. Il a donc ouvert la voie à l'autoroute. Mm-hmm. Et on voit très bien ce que vous disiez, la concurrence de l'automobile et le développement de l'automobile et la revanche qu'a pris la route sur le ferroviaire avec la construction de cette autoroute. Et combien ça a pénalisé en fait le ferroviaire, puisque même pendant un certain temps, on s'est dit cette ligne, elle est condamnée. Et peut-être d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu une usine très importante en Lozère, hein, qui emploie plus de 200 ouvriers, et qui est donc une usine ArcelorMittal qui nécessite là d'être transportée, qui a des matériaux, des matières premières qui doivent être transportées par le ferroviaire. Mmh. Si elle n'était pas là, certainement notre ligne serait déjà condamnée du fait de la présence de l'autoroute. Et en plus, cette autoroute est gratuite sur une grande partie de Ghana, de Clermont-Ferrand à Millau jusqu'au viaduc de Millau. Vrai,
pour l'usager, pas pour le contribuable.
Tout à fait, tu fais bien de le rappeler, c'est tout à fait ça.
C'est une bonne nuance à apporter.
Exactement. Ouais. C'est très important parce qu'à chaque fois que l'on fait qu'il y a pu y avoir des rapports sur le ferroviaire, en fait, on oublie tout un pan du coût de l'automobile et de la route. Il y a quand même un sujet très important, c'est tout la pollution qui est engendrée par la route. Donc tous les hydrocarbures, qui partent. Et la 75 n'est pas aux normes, donc une partie des hydrocarbures partent dans la nature pour rejoindre nos ruisseaux et donc notre eau potable à un moment. C'est ça le cycle. Donc c'est aussi des choses dont les gens ne sont pas totalement conscients. L'État en est conscient, elle devrait aussi travailler sur le sujet. Et puis, il y a aussi tous les accidents de la route qui, en termes de drames humains, sont bien déjà sûr. Des choses incroyables à éviter. Et puis, bien sûr, en termes de coûts pour la société derrière aussi. Effectivement, je pense que aujourd'hui, et d'ailleurs un ancien directeur de la SNCF le disait, il disait si le rail parvient à survivre au XXe siècle, il sera la solution du XXIe.
Et oui, voilà, ça fait une magnifique transition. Je vous propose justement d'écouter un extrait qui va dans ce sens et on passe à la deuxième partie ensuite.
Envahi par les hautes herbes plutôt que par les voyageurs, la gare de Comines a fermé en décembre dernier. Elle permettait de rallier Lille en presque 20 minutes. Deux fois plus vite qu'en voiture, trois fois plus vite qu'en bus. Une gare et une petite ligne fermée, un phénomène loin d'être rare, auquel le gouvernement dit vouloir s'attaquer.
Nous avons 9000 km de petites lignes qui sont en danger. Vous avez des tronçons, parfois l'intégralité de la ligne, qui est suspendue, arrêtée ou qui souffre de limitation de vitesse, qui bien d'ailleurs souvent rend la ligne ferroviaire moins performante que la route.
Comme ici à Avion, beaucoup de petites gares, celles des fameux trajets du quotidien, sont menacées ces dernières années. Même chose à Templeuve, qui a perdu 17 de ses 74 trains quotidiens. Aujourd'hui, les annonces gouvernementales n'ont pas convaincu le maire. Il milite toujours pour un renforcement de la fréquence des trains sur sa commune.
Pour mettre en place des lignes jusqu'à présent fermées, petites lignes, bon, c'est une bonne chose. Simplement, ça prendra probablement pour certaines d'entre elles 10 ans. Pour Templeuve, ça peut prendre 10 semaines et on récupère nos trains.
Sauver des petites lignes, sur le papier, une bonne nouvelle pour les usagers. Reste la question cruciale, qui financera ces investissements ?
Territoire en mouvement sur Radio Territoria.
Alors, on vient d'entendre un extrait d'un reportage réalisé par France 3 en juillet 2020. Donc, c'est pas vieux. C'était il y a 2 ans. On a quand même l'impression qu'on entend encore toujours cette même petite berceuse. Malgré tout, Antoine Beillère, pourquoi on a supprimé ces lignes et notamment ces lignes dites secondaires, c'est-à-dire les lignes d'aménagement du territoire? Est-ce que c'est lié au TGV? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est un peu ça. C'est ah oui, mais on a privilégier le TGV au détriment des lignes plus rurales, ou est-ce que c'est plutôt un poids financier qui a pesé dans la balance ?
Oui, c'est sûr que dans les années 80-90, l'essentiel des moyens financiers allait à la réalisation des... À l'époque, c'était RFF, de la réalisation des LGV, au détriment de l'entretien courant et de la rénovation du réseau classique, avec un retard dont on a pris conscience dans les années 2005. Vous aviez un panel d'experts suisses de l'école polytechnique qui avait dit on fonce droit dans le mur et si on ne fait rien, et le réseau ne sera plus praticable. Donc on a doublé à ce moment-là l'effort financier pour remettre à niveau. Alors ça perturbe les circulations. Mais il y a quand même un effort de la part de la puissance publique qui est significatif. Alors c'est vrai que les 9000 km de petites lignes dont on parle, la personne qui a interviewé, ça a été à peu près partagé. Hein, c'est-à-dire, il y a le rapport Philizo qui avait, où 1500 km sont pris en charge, sont intégrés et doivent être maintenus par SNCF Réseau, ou 6500 km. Ça va être les contrats de plan État-région, donc une négociation entre l'État et la région pour savoir au cas par cas, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on le réserve au fret, parce qu'il y a aussi des lignes dont on ne parle pas, qui en, je crois que c'est compris dans les 30 000 km dont vous parliez, donc vous saviez en plus, qui sont sans voyageurs, mais uniquement pour raccorder ces sites industriels. Et puis il y a 1500 km qui justement pourraient être transférés vers les régions, dans les gestions pour être transférées à la région. Et là, c'est finalement plus l'État, mais les régions qui décideront de la vie ou de la mort de ces petites lignes.
Et oui.
En revanche, alors, dans l'entretien qu'on entend, on est pas mal dans la grande banlieue lilloise, Templeuve, Comines. Bon, je pense qu'on peut... C'est pas tout à fait la même chose que...
Il n'y a pas de TGV entre Comines et Lille, quoi.
Non, il n'y a pas de TGV. Mais potentiellement, et c'est là où, en termes d'investissement, les régions vont devoir se poser la question, c'est que la priorité qui est signalée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes... express régionaux, l'équivalent des RER, pour desservir justement les grandes périphéries des villes par la voie ferroviaire, en améliorant, en faisant ce qu'on appelle des diagonales, plus d'arrêts en gare centrale, des transversales, et d'aménager ces gares avec une augmentation de la fréquence, parce que c'est bien d'avoir des petites lignes, mais il faut aussi avoir des trains qui circulent de manière régulière. Voilà, donc je pense que dans la balance, on peut maintenir certaines lignes, je dirais, de campagne ou rurales, mais enfin, qui sont très largement aussi vidées de leur population, et que l'investissement prioritaire pour rendre le ferroviaire important, et c'est sans doute là où les régions vont investir le plus, c'est autour des métropoles et en discussion avec les métropoles.
Patricia Rochès, sur cette histoire de région, comment vous le percevez-vous en tant qu'élue ?
Oui, ça me fait réagir parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même de nombreuses négociations pour dire, écoutez, les régions ont fait un effort, vous pouvez en prendre un petit peu. Sauf qu'il y a quand même un élément important qui est l'égalité et au moins l'équité de traitement des habitants. Et même si on n'est pas nombreux, on doit aussi avoir la possibilité de se transporter par le train. Et sur des territoires comme les nôtres qui sont traversés par des lignes qui sont considérées comme des petites lignes parce que c'est en fait un classement qui est fait en fonction du nombre de trains qui circulent. Donc comme il n'y en a pas beaucoup, comme il y a souvent des travaux, comme elle est souvent suspendue, évidemment, il y a des chiffres qui ne sont pas bons et on nous considère comme une petite ligne alors qu'elle va de Béziers à Clermont et jusqu'à Paris. Donc, à un moment, rien que celle qui va de Béziers à Clermont-Ferrand et qui traverse 6 départements et qui passe à travers le Massif central qui ne connaîtra jamais la LGV, il faut aussi que nos territoires puissent être considérés et qu'il y ait un aménagement global qui soit pensé au niveau national et pas juste dans les régions et au niveau régional. C'est très important. Et la deuxième chose que je trouve très regrettable, vous dites la puissance publique a fait des efforts. Oui, un minimum, je trouve, avec la pression de la population, hein, quand même un peu contraint et forcé. Et en revanche, le seul prisme par lequel le ferroviaire est regardé aujourd'hui, c'est depuis Bercy. Et donc, on demande à la SNCF, en fait, de résorber la dette qui était en fait une dette d'État, qui aurait dû être reprise par l'État, comme l'a fait, par exemple, l'Allemagne ou la Suisse. Nous, on n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait la SNCF ? Elle est obligée de faire des coupes sombres. Et aujourd'hui, on hypothèque vraiment l'avenir du ferroviaire. Et on est en train de prendre des décisions cruciales.
Antoine Beillard, oui.
Juste un point, l'État a quand même pris 30 milliards de dettes de...
C'est pas assez. L'État du réseau ferroviaire, c'est pas assez.
Et met quand même chaque année plus d'un milliard, un milliard et demi sur la table pour remettre au niveau. On ne peut pas faire beaucoup plus.
Ce sont des choix politiques.
En fait, signer autrement.
Tout à fait.
Peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que... Il y a des lignes, et c'est vrai que l'entretien des lignes, notamment de montagne, puisque c'est elles qui sont les plus. Qui sont sur la sellette, sont aussi les moins empruntées et les plus coûteuses à entretenir.
C'est pas vrai,
les autoroutes LGV... de montagne, par contre, on les entretient sans aucun problème.
Tout à fait. Et les LGV coûtent très cher.
Peut-être une distinction à porter entre le coût et l'investissement également. Quand on sait la durée de vie d'une rénovation et le coût au kilomètre d'une rénovation qui est inférieur même au coût d'une deux fois deux voies, notamment.
Alors justement, juste avant, du coup, peut-être une réaction,
oui,
Olivier Razon.
Non,
s'est passé, enfin, au-delà des discussions sur les milliards, etc., c'est que on continue à investir. On a investi dans le TGV beaucoup dans les années, effectivement, 70, 80, 90, avec cette idée que maintenant, c'était comme ça qu'on devait se déplacer. Et aujourd'hui, la question est de savoir, quand il a été élu, le président Macron a dit en 2017, aujourd'hui, on fait la priorité pour les transports du quotidien, ouais. On arrête de faire des lignes à grande vitesse, on arrête les promesses qui avaient été faites par ses prédécesseurs, et donc on se concentre sur le quotidien. 4 ans après, en 2021, il a dit tout l'inverse. Il a dit d'un seul coup, ah ben non, finalement, maintenant, on va refaire des lignes à grande vitesse. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une fois qu'on, bien sûr, il y a les investissements, des non-investissements, ok, mais est-ce qu'on continue à investir dans des lignes qui vont profiter, en fait, aux habitants des métropoles, aux 5 ou 10% des habitants des métropoles qu'ils font tous les jours, hein, qui vont des Bordelais qui vont à Paris ou des Bordelais qui vont à Toulouse. C'est ça quand même. Mm-hmm. Est-ce qu'on continue à vouloir accélérer la journée de travail du Bordelais qui va à Paris, en l'occurrence plutôt du Toulousain qui va à Paris ou du Bordelais qui va à Toulouse, ou est-ce qu'on prend en compte l'ensemble des autres territoires compte tenu également de cette concurrence, de la voiture, etc. Ça suffira pas. C'est-à-dire que ça suffira absolument pas. Il y a d'autres choses à faire. Il faut avoir une culture du train qui revient. Aujourd'hui, ce qu'on a et ce qui est frappant, c'est qu'on a un système ferroviaire qui, comme dans d'autres pays, est hiérarchisé avec la grande vitesse, les lignes non grande vitesse qui traversent le pays et puis ensuite les lignes régionales, les lignes locales, etc. Mais on a l'impression que chaque segment s'adresse à une population différente, qui en plus de soi sont plus ou moins les mêmes, parce que les TGV s'adresse essentiellement à ceux qui vont vers Paris ou de Paris. Bien sûr, il y a le réseau francilien qui s'adresse aux franciliens, qui est le plus utilisé. Et puis après, on a les TER. Alors les TER, simplement pour avoir cette idée en tête, c'est frappant. Dans les TER, tous les jours, il y a environ 1 million de voyages, c'est-à-dire moins que dans le RER A. Qui est la principale ligne utilisée en Île-de-France. Et donc, on a des segments comme ça différents. La correspondance, littéralement, alors, n'est pas forcément organisée entre les différents réseaux. Et il n'y a pas de logique qu'il peut y avoir en Suisse, évidemment, en Belgique aussi, aux Pays-Bas, en Allemagne, qui consiste à passer d'un réseau à l'autre. On considère que quand on est dans le TGV, on est dans le réseau TGV.
Oui, c'est vrai.
Et les TGV, d'ailleurs, les trains TGV roulent sur des voies qui ne sont plus des TGV, qui vont le plus loin possible pour éviter la correspondance, parce qu'on ne fait pas confiance aux correspondances, à tort. Et c'est un réflexe qui est très souvent. Et donc, on a vraiment deux. D'ailleurs, ça s'entend et ça se voit littéralement dans les trains. Quand on est dans un TGV, on a cette annonce qui vous dit ne faites pas de bruit pour vos voisins, etc. Dans un TER, il n'y a absolument pas ce type d'annonce. C'est débrouillez-vous avec les lycéens qui sont là, qui font beaucoup de bruit, etc. Donc on sent vraiment qu'on a...
On a même la météo maintenant, comme dans l'avion.
Oui, c'est vrai. Vous arrivez dans la gare. Dans certaines lignes, j'ai entendu ça l'autre jour aussi, entre Lyon et Paris.
Cette question de la mobilité, en fait... Pardon, mais ça pose la question de la société qu'on souhaite et de la répartition aussi de la population que l'on veut opérer au niveau national.
Oui, alors ça c'est malheureusement, ça ne dépend pas que de l'État, ça dépend aussi beaucoup de l'individu et d'un souhait de s'installer ou pas dans certains territoires. On l'a vu d'ailleurs avec les années post-Covid.
Tout à fait. Après le Covid, et nous, on l'a vu sur nos territoires. Il y a des gens qui reviennent. Mais justement, il faut aussi... pouvoir leur permettre d'avoir accès à une mobilité
juste autre avant que
la voiture.
Que du coup on puisse donner la parole à Antoine Lévesque. Antoine Béziers, vous vouliez ajouter un mot.
Là aussi, il y a la responsabilité des régions, parce que bon, l'État peut pas tout, mais effectivement la tendance a été de segmenter, parce que c'est pas le même matériel, c'est pas la même tarification. Il y a cette logique là. Alors on peut revenir en arrière et avoir une SNCF unique gérée par l'État, mais qui n'était pas non plus la panacée. Et je pense que effectivement les responsabilités sont aussi au niveau des SCOT, donc des intercos, pour lesquels on essaye, je pense au cas de, je crois que c'est Avignon par exemple, de redensifier le long des voies autour de petites étoiles ferroviaires. Donc la logique, c'est pas le transit, c'est des problèmes, enfin des questions d'étoiles ferroviaires. Encore faut-il effectivement que quand on arrive dans la gare centre, il y a des choses à faire, pas qu'on ait une rupture de charge pour aller en périphérie faire ses courses, parce que là ça marche pas mieux. Je pense que l'État a sa responsabilité, mais les collectivités également.
L'État doit impulser.
Et Antoine Lévesque, justement, si on prend...
Oui, bien sûr. Mais l'État doit impulser de quelle manière ? La parole politique n'est pas vaine. Il y a bien sûr les budgets, les votes, les machins, Bercy. Mais il y a aussi la parole politique. Et quand le ou la ministre des Transports dit une chose, ça a aussi un sens et ça encourage y compris les acteurs locaux qui sont les fameux sauveurs de train qui essaient de se battre pour leur gare ou pour leur...
Alors, si on regarde justement pour aller voir chez nos voisins comment ça se passe, voir un petit peu aussi sur les autres pratiques... Antoine Lévesque, quelle est justement la situation chez nos voisins européens ?
Alors peut-être juste rappeler en France déjà quelques chiffres pour après pouvoir comparer. En France, on a quand même un système qui est largement financé, l'infrastructure est financée fortement par le péage. Le péage, donc ces contributions que verse n'importe quel opérateur ferroviaire pour faire rouler un train, qu'il soit de voyageurs ou de marchandises sur le réseau. En France, les péages sont en forte hausse puisque la dette de SNCF Réseau est toujours une réalité malgré un rachat de dette partiel par l'État. Les augmentations, ça va être quand même de 2,2% en 2022 et ça a augmenté de 0,5% l'année dernière. L'augmentation des péages fait que chaque train a un coût qui est non négligeable, alors que pour autant, pour maximiser l'usage qu'on fait du réseau, il faut au contraire injecter plus de trains pour que le coût par train diminue en faisant ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et on a signalé effectivement toutes les réformes ferroviaires qui ont pu être faites en France, mais ça ne règle pas la question des moyens qui sont alloués au réseau. Pour comparer donc en France, la dépense par habitant, elle est de 40 euros dans le rail en 2018. En Italie, chez nos voisins, c'est deux fois plus. En Angleterre, c'est trois fois plus. Et en Suisse, neuf fois plus. Même si c'est
neuf
pas dans
fois
l'Union.
Plus, c'est énorme.
En Suisse, pourtant a un réseau de 3000 km, tandis qu'en France, on a un réseau de 30 000 km, comme on l'a bien signalé. On voit quand même, on note des disparités très fortes, d'autant plus que parmi ces dépenses, il faut quand même distinguer les investissements qu'on fait, qui sont des investissements d'avenir, et les dépenses de court terme que l'on peut faire pour sauver ce qui peut encore l'être. Ce ne sont pas les mêmes, et la longévité des investissements que l'on va être amené à faire n'est pas équivalente non plus. Ce que je vous dis, ça a été rappelé lors des débats au niveau de l'Union européenne sur les paquets ferroviaires, parce que la libéralisation au sein de l'UE, elle se fait par paquet. Dans les débats du quatrième paquet ferroviaire, ça a été fortement rappelé que la France ne finance qu'à 32% son système contre 90% par la Suède et 50% pour l'Allemagne. En réalité, ça signifie tout simplement que l'État de ces pays-là prend plus en charge et que le péage n'est finalement qu'une recette subsidiaire pour l'entreprise qui est chargée de la maintenance. En France, ce n'est pas le cas et je renvoie à ce qu'a dit le président Farandou, le PDG de la SNCF, pas plus tard qu'il y a un mois au think tank Jean Jaurès, qui a bien signalé cette carence. Et le contrat de performance qui a été signé entre l'État et SNCF Réseau pour assurer la régénération des lignes, qui est maintenant indispensable, ne permettra pas de faire tous les travaux qui ont été projetés. Donc la question est de savoir, certes, si on veut un investissement ou pas de l'État, et il est présent, mais il est présent sans nul doute insuffisamment.
Olivier Razon, un commentaire sur ces chiffres qui sont quand même parlants par rapport à...
peut-être qu'on est arrivé au pied au fond de la piscine, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que la suppression des lignes, le remplacement par des cars, qui a continué, on s'aperçoit que c'est pas la même chose, qu'une partie des gens qui subissaient ça ne l'acceptent plus. Et il y a eu, c'était médiatiquement très présenté. Enfin, il y a eu un peu comme ça des lignes qui ont rouvert, comme ça entre Épinal et Saint-Dié, la ligne, ça fait déjà un moment, mais la virgule entre Cavaillon et entre Carpentras et Avignon, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu un argument, même s'il est très lointain, mais malgré tout, l'argument environnemental joue. C'est-à-dire que maintenant, ça donne des éléments aux gens qui se disent moi je préfère le train pour plein de raisons, parce que c'est plus agréable, parce que c'est plus tranquille, qu'on n'a pas de soucis, etc. qu'on peut dire qu'on se soucie pas du mauvais temps, du beau temps, et ça leur donne des arguments en plus quand j'ai fait des enquêtes sur les sauveurs de train, ce que j'appelle les sauveurs de train, dont Patricia Rochas fait partie et Antoine Évêque également. En fait, ça m'a frappé de voir des gens qui étaient décidés à pas se laisser faire, à vouloir conserver leur ligne ou leur gare et qui s'appuyaient sur, enfin c'était pas le premier argument qui venait, mais qui s'appuyait aussi sur les questions de CO2 pour dire on est vertueux, faudrait quand même pas nous couper les rails, en fait.
Oui, plutôt que l'herbe sous le pied. Juste avant de passer à notre dernière partie, parce que l'heure tourne, Patricia Rochès, quels sont les combats quand même que vous menez justement pour sauvegarder cette ligne? Est-ce qu'il y a beaucoup d'usagers sur cette ligne? Est-ce qu'elle est très empruntée? Comment
Alors, vous défendez votre... De, regarder et d'avoir le nombre d'usagers sur la ligne. On sait qu'il y en a, oui, à tous les jours et de nombreux, que c'est une ligne très empruntée, notamment par les lycéens le lundi et le vendredi soir, par les touristes également. On sait qu'elle est très utile, notamment pour le fret, et on sait qu'elle peut l'être encore plus. Donc pour nous, c'est un combat important, mais je le rappelais encore il y a quelques temps à vos collègues journalistes de Reporters ou de France 2, c'est pas simplement notre ligne ou notre gare, c'est vraiment aussi un système et le ferroviaire en France. Et on milite pour que l'État soit présent au rendez-vous et on le voit. Alors, on n'était déjà pas en avance, vous savez, au 19e siècle, pour lancer l'épopée ferroviaire. Les Anglais avaient été bien meilleurs avant nous. Et on est arrivé tardivement dans la modernité. Donc, on peut se dire que là encore, on met un peu de temps à réaliser que la modernité, c'est le ferroviaire et qu'on va finir par le réaliser et que l'État va finir par effacer totalement cette dette, et ce serait bien cette année, pour permettre aussi à la SNCF, et le directeur lui-même de la SNCF le dit, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on voudrait faire et ce qu'on nous demande de faire aussi. Donc à un moment, ce sont des choix de société, des choix politiques. Oui, c'est de l'argent, mais où est-ce qu'on veut le mettre et comment est-ce qu'on veut l'investir et comment est-ce qu'on veut modifier notre société pour demain, pour les jeunes. Et moi, depuis 20 ans que je milite, je peux vous assurer que je vois vraiment un changement. Et ce que Olivier Razemont soulignait est tout à fait vrai. Il y a effectivement des jeunes, comme Antoine, 21 ans, qui s'engagent et qui nous disent, nous, on ne veut pas de cette société rien qu'avec l'automobile. Et on a conscience qu'il faut changer nos habitudes. Et on est prêt à le faire. Et il y a de nombreux jeunes et de nombreux Parisiens, plus de 60%, je crois, qui n'ont pas d'automobile, qui n'ont pas le permis. Et je vois dans le Cantal des jeunes arriver et venir vivre dans le Cantal sans voiture. Ça, il faut être...
Ça, c'est un joli défi.
Tout à fait. C'est possible.
Antoine Béillard, vous voulez
réagir. Je pense qu'effectivement, il y a les infrastructures. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la circulation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre non plus qu'il y ait deux trains par jour. Bon, ce ne serait pas très rentable. Et donc, il y a un investissement de la part des régions en matériel roulant, et ça coûte très, très cher. Il faut que ces trains soient remplis pour qu'ils soient amortis. Et voilà, pour que le service soit au niveau attendu. Je rappelle juste que pour les trains régionaux, les collectivités payent les trois quarts du coût. L'usager ne paye qu'un quart.
Je vous invite
à pour tous les transports, ça, y compris routiers.
Je vous invite vraiment à regarder ce qui est fait sur la région.
Ça peut se discuter routier, pour le transport routier.
On a un système routier tellement efficace qui est largement payé la signalisation, l'accidentologie.
Il est efficace, mais je veux dire, il y a des impôts sur les taxes sur les carburants.
Sur les contribuables, pas forcément sur les usagers.
Oui, mais c'est les usagers qui achètent le carburant.
Et puis il y a des impôts aussi sur tout le monde.
Non, mais je veux dire, globalement, si vous voulez, il y a un système qui est quand même, qui reste plus équilibré parce que la contribution et le coût global, c'est-à-dire l'entretien de la voiture et les taxes sur les carburants sont élevées.
Alors, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de notre émission et qu'on fasse justement un petit retour en arrière et pourquoi pas questionner le passé pour une modernité plutôt de demain. On écoute.
Voyager en train avec sa voiture. Si l'idée peut paraître dépassée aujourd'hui en France, elle est pourtant en vogue dans les années 60.
Étant donné les inconvénients de la route, c'est extrêmement bénéfique.
Le train autocouchette est alors la solution idéale pour voyager de nuit et rejoindre le sud de la France.
Le train autocouchette s'est intégré un peu plus à la tradition des vacances. La SNCF a mis en service sur la ligne Paris-Biarritz un nouveau train d'automobile accompagné qui prend en charge les véhicules en même temps que les voyageurs.
À cette époque, le réseau autoroutier français n'est pas encore développé. Résultat, les vacanciers adoptent le train auto-couchette, considéré comme plus pratique, plus rapide et surtout plus sécurisant que la voiture.
Le soir, on arrive, on met sa voiture sur le train, on passe une bonne nuit et le lendemain matin, on l'a à la gare. Et au moins, on est sûr d'arriver, ce qui n'est pas toujours le cas sur la route, malheureusement, de nos jours.
Dans les années 70, le train auto-couchette connaît son âge d'or. De plus en plus de personnes décident d'opter pour ce mode de transport. En cause notamment la hausse des carburants due au choc pétrolier de 1973 et la limitation de vitesse à 90 km/h sur les routes.
En 1957, la SNCF avait lancé la première liaison Boulogne-Lyon. Le train autocouchette avait transporté 3300 véhicules cette année-là. En 1973, 43 000 voyageurs ont choisi cette formule et près de 16 000 voitures ont pris le train.
À partir du milieu des années 80, le développement du réseau autoroutier et des TGV va entraîner la diminution progressive des trains autocouchettes. Alors que les vacanciers commencent à délaisser ce mode de transport, d'autres font encore de la résistance.
le rapport entre la sécurité, le repos, et bon, une fois par an, ça vaut le coup. Je ne le ferai pas toutes les semaines. Hein.
Aujourd'hui, le service appartient au passé. En 2019, seules 6 gares étaient desservies par l'autotrain, dont Marseille et Paris-Bercy. Le nombre de voitures transportées est ainsi passé de 62 000 en 2016 à 33 500 en 2018.
Territoire en mouvement sur Radio Territoria.
Donc on vient d'entendre un autre extrait, cette fois aussi réalisé par France Info et l'INA, hein, sur les trains couchettes dans les années 60-70. Alors je pense que certains d'entre nous autour de la table les ont connus. En tout cas, moi j'ai des bons souvenirs d'enfance dans ces trains couchettes. On les utilise moins, on l'a entendu, 2019, plus que 6 lignes qui maintenaient ce service. Pourtant, quand on observe ce dont on a parlé justement précédemment, l'insécurité de la route, le fait que c'est quand même un transport très polluant aussi, est-ce que on peut pas imaginer que la modernité, c'est de revenir au train couchette, voire avec les auto-couchettes?
Ouais. La sécurité de la route s'est beaucoup améliorée en fait entre-temps. Mm-hmm. Très, très, très massivement, en fait. Parce qu'on a tout misé, justement, précisément, sur la sécurité. Les autoroutes aux Suisses, aujourd'hui, sont gérées de façon à ce qu'on évite énormément d'accidents, en fait. Donc,
Je trouve quand même qu'elles sont très insécurisantes, moi. Mais bon.
Elles sont très insécurisantes et c'est stressant, parce que conduire est stressant, et ça, c'est incontestable, et je ne peux pas dire l'inverse, évidemment. Mais ça peut être. Alors, moi, j'avoue, sur ce sujet, sur l'auto-couchette, je ne connais pas le bilan de tout ça. Je pense que le train de nuit en tant que tel peut avoir beaucoup d'avenir pour différentes clientèles aussi. Soit une clientèle qui cherche le prix, soit une clientèle qui cherche la qualité avec des prix beaucoup plus élevés. Et je pense que là, d'ailleurs en Autriche, c'est en train de se développer. La compagnie autrichienne ÖBB a lancé toute une série de lignes comme ça en travers l'Europe qui sont, paraît-il, je ne les ai pas encore essayées, mais très confortables. Et là, je pense qu'il y a un vrai avenir avec en plus de ça une desserte. Qui n'est pas seulement de ville à ville, mais également en passant par des villes moyennes, des petites
Tout
villes, avec des liens avec d'autres moyens de transport sur place. Et là où je vais peut-être, c'est assez différent, mais je pense que le combo vélo plus train, pas forcément le vélo dans le train d'ailleurs, mais le vélo qui arrive à la gare, pas forcément pour des trajets très longs. Alors, trajet très long, alors là, on a le vélo dans le train, mais c'est autre chose. Mais surtout, ce qui fonctionne très bien, par exemple, aux Pays-Bas, c'est le fait de pouvoir arriver à la gare à vélo. Je crois que 60% des gens qui arrivent à la gare à vélo aux Pays-Bas sont à vélo. Le laisser là, le laisser dans la gare, il y a des parkings vraiment organisés. Ensuite, prendre le train et louer un vélo à l'arrivée. Quitte à ce que ce soit le même vélo chaque jour, en fait, avec des systèmes. Alors, la SNCF, pour l'instant, absolument rien compris à ce projet-là, à ce système-là, mais ça existe, c'est organisé par l'équivalent néerlandais de la SNCF, qui consiste à organiser des locations de vélos dans chaque gare. Alors là, c'est pas les trajets au long cours, c'est pas pour aller dans le midi, c'est plutôt les trajets de ville à ville, de faire 50 km ou 20 km, et ensuite on retrouve un autre vélo qui permet d'aller... je pense qu'il y a un potentiel majeur de vélo plus train, parce que une fois qu'on se déplace autrement qu'en voiture pour tous les trajets, une fois qu'on a intégré le fait que la voiture ne rend pas tous les services parce que ça va être cher, fatigant, compliqué, tout ça, on descend de sa voiture et on fait autrement. Je pense que quand on descend de sa voiture pour prendre un vélo, eh bien en fait on s'habitue à se déplacer.
Et puis ensuite, il faut que ça devienne une habitude pour prendre goût aux choses. Antoine Lévesque, du coup, vous qui faites un partie de ce collectif Oui pour le train de nuit, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors, la mobilisation pour le train de nuit en France, elle est montée en puissance en 2015-16, lorsque le gouvernement précédent avait fait le choix d'arrêter ces lignes, sauf effectivement deux lignes dites d'aménagement du territoire, parce qu'il n'y avait pas d'alternative routière correcte sur ces territoires-là, le Paris-Briançon, le Paris-la-Tour-de-Carol, le Rodez. Aujourd'hui, la vapeur est en train de s'inverser, si j'ose dire, mais c'est effectivement au prix d'une forte mobilisation, une prise de conscience aussi des acteurs politiques, de la société civile également. Donc, au sein du collectif, effectivement, on se bat depuis 6 ans. D'abord, au début, ça a été aussi pour balayer un certain nombre d'idées reçues. Je reviens sur l'autofinancement des trains de nuit. L'autofinancement est bien meilleur que n'importe quel train, même TGV. Aujourd'hui, on est à plus de 50% d'autofinancement et c'est très rare pour les trains en réalité. Donc ça, c'était une première contre-vérité qu'il fallait démentir, parce que quand on sait les problèmes qu'ont connus les trains de nuit en matière de régularité à cause des travaux sur le réseau qui interviennent surtout la nuit sur les grandes lignes, eh bien, finalement, on peut quand même se réjouir que le taux de fréquentation soit honorable et repart à la hausse. Sur le Paris-Nice, qui a été relancé il y a moins de 2 ans, on est sur de nombreuses dates à des trains complets, et l'été dernier déjà. Sur les trains nuit, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une alternative très crédible, non seulement au TGV parfois, mais surtout à l'avion. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'un voyageur sur deux de l'aérien en Europe voyage au sein du continent européen. Et qu'en train de nuit, on peut aller 2 fois plus loin qu'en TGV. Mmh. Le président Farandou l'a rappelé, on peut faire de 1000 à 1500 km en train de nuit en une nuit, en seulement une heure, puisqu'il faut une demi-heure pour s'endormir, une demi-heure pour se réveiller avec des trains confortables. Et donc, le train de nuit n'est pas à opposer avec les autres modes, mais il a sa zone de pertinence qui est extrêmement étendue, à la fois pour desservir des territoires qui ne sont pas pourvus de la grande vitesse, je pense au Massif central, mais également les capitales européennes entre elles. Olivier Rasmont a parlé des chemins de fer autrichiens. OBB a investi 1,5 milliard d'euros pour une nouvelle génération de trains de jour comme de nuit. Et donc, nous en appelons au gouvernement pour financer un grand plan pour remettre sur pied plus d'une trentaine de lignes de nuit, à la fois nationales et européennes. Et ça passe d'une part par la rénovation du réseau et d'autre part par le financement de nouveaux matériels roulants qui soient dignes du 21e siècle et qui proposent plusieurs niveaux de confort allant de la place assise à la cabine privative, sachant que le train de nuit est un train pour tous, puisque on s'aperçoit que les types d'usagers du train de nuit sont bien plus variés que ceux de la grande vitesse.
Alors justement, en parlant de matériel roulant moderne, Antoine Beyer, est-ce qu'il y a d'autres solutions que le train de nuit pour essayer de moderniser un peu, ou en tout cas d'inciter à cet usage?
On parlait tout à l'heure des petites lignes.
Oui.
Donc là aussi, c'est la question du matériel. On peut avoir. Alors il y a la question de ces trains qui, sur des lignes, ne sont pas électrifiées. Je vous rappelle quand même que 50% du réseau ferroviaire national n'est pas électrifié. Donc ça fonctionnait au diesel. Matériel qui arrive en bout de course. Et certaines régions se sont regroupées pour développer et acheter du matériel à hydrogène. Donc là, il y a une alternative qui est intéressante, mais ça reste du matériel qui reste assez lourd. On a aussi, pour les petites lignes, du matériel qui serait très léger, voire certains imaginent même des trains autonomes. Hein, on pourrait, alors, si on combine tout ça, ça pourrait être quasiment des sortes de petites navettes ou bulles qui, quasiment individuelles sur du rail. Voilà.
Et en même temps, c'est un rêve inutile, je pense.
Oui,
pardon. Mais à quoi ça sert de réinventer À quoi ça sert d'inventer un truc nouveau quand il y a déjà des choses qui ont fonctionné depuis des décennies?
C'est-à-dire que ça donne plus de souplesse. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas des horaires fixes. Ça permet de les regrouper. Cela dit, cette question de la desserte en véhicule autonome dans les zones de campagne pour les populations vieillissantes.
Et posée depuis 10 ans sans avoir fait progresser une iota.
Oui, mais je veux dire, c'est à portée de main. Des voitures autonomes pour des gens qui ne sont plus en moyen de conduire, c'est des choses qui
en fait, ça m'étonne. C'est-à-dire qu'il y a déjà des tas de voitures dans les campagnes, un peu partout. Oui. La plupart des gens en ont. Et on pourrait les partager. Et là, on attend la technologie hyper chère, hyper consommatrice en ressources, pour dire, tiens, on va partager le truc. Mais pourquoi on le fait pas déjà les outils qu'on a maintenant? C'est ça qui me surprend, c'est de devoir toujours penser à la technologie d'après, alors qu'on a des choses qui existent.
Il y a des partages qui existent, ça s'appelle du low-tech, avec par exemple le système TomPouce, où des gens s'inscrivent, etc. Mais c'est vrai que
ça fonctionne bien. Oui. Ça peut fonctionner, ça pourrait fonctionner. Oui. Pardon.
Patricia, juste avant de conclure, justement, ce qu'on doit rendre le studio, Patricia Rochesse, un mot par rapport justement à vous, ce que vous vivez sur votre territoire et ce qui vient d'être dit là sur ces...
Un autre des combats que l'on mène sur notre ville, sur notre ville, et c'est justement l'arrivée du train de nuit. Mmh. Là, aujourd'hui, on milite pour que le train de nuit qui a été annoncé par le Premier ministre pour arriver dans le Cantal à l'horizon 2023 puisse traverser tout le Cantal et descendre jusqu'en Lozère. Pour moi, Antoine l'a très bien dit et rappelé, c'est effectivement une des modernités que peut amener le rail. En fait, on réinvente l'histoire, mais on l'a fait par exemple avec dans les villes les tramways qu'on a enlevés et puis qu'on a remis parce que finalement c'était une très bonne solution. Et je pense qu'on finira par s'apercevoir que le rail est moderne. Et j'incite vraiment tous les gens qui ont écouté, et M. Beyer également, à regarder ce que fait la région Occitanie et l'investissement qu'elle consacre au rail et les résultats qu'elle obtient. Donc vraiment, c'est une histoire de choix politique. Mm-hmm. Oui, ça coûte de l'argent.
Ça commence par là, oui.
Mais ça commence par là, tout à fait.
Merci beaucoup pour ces interventions. Et puis, ce débat très riche, c'est bien. Je pense qu'on pourrait conclure en disant que la transition, elle va vers la multimodalité pour commencer, et qu'en tout cas, le train est loin d'être en effet obsolète. Et puis, on peut le voir comme une modernité, quoi qu'il arrive. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous qui avaient été autour de cette table et être venus de loin, en train, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Je repars en train.
Et à très bientôt sur Radio Territoria.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Territoire en mouvement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.